Bonjour à tous et à toutes, nous voilà maintenant sortis de la fête de Pessah et nous rentrons dans la période estivale. C'est une période durant laquelle on a la coutume, de Pessah jusqu'à Shavuot, de lire chaque Shabbat, le matin ou l'après-midi en fonction des communautés, un chapitre de Maseret Avot, du traité Avot. Chez les Ashkenazim, on répète ce processus trois fois jusqu'à ce qu'on arrive à Rosh Hashanah. Et donc la période estivale, la période printanière, est particulièrement propice à cette étude, car nous avons besoin de nous renforcer dans le moussard, dans les midot. En effet, avec l'été, avec la chaleur, nous nous libérons d'un certain nombre de barrières, et il faut donc se rappeler soi-même à l'ordre sur la manière de se comporter pour un juif ou pour une juive. Avant de commencer la lecture du Perek d'Avot, on commence par lire la Mishnah qui se trouve au début du 10e chapitre de Sanhedrin, qui est Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, tout Israël à part au monde futur, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit Ve'amer Kulam Tzadikim, ton peuple est constitué entièrement de justes, Leolam Yirshu Aretz, pour l'éternité ils hériteront de la terre, Netzer Mataai, le rejeton de mon plan, Maasei Yadai Leit Paer, l'œuvre de mes mains dont je me glorifie. Le Tosfot Yom Tov nous explique tout de suite que ce terme de Haaretz ne décrit absolument pas une terre matérielle, il ne s'agit pas d'hériter d'un lopin de terre, il s'agit du monde futur, comme cela est expliqué dans le Rambam au troisième pérec de Ilchot Tshuva, et comme c'est expliqué également à la fin du premier pérec de Kiddushin. Le Marzor Vitri se pose la question de savoir pourquoi on commence la lecture du Pirkei Avot par cette introduction issue de Sanhedrin. Il nous dit en fait qu'il y a une certaine difficulté à étudier le Pirkei Avot, étant donné qu'il s'agit tout entier d'un ouvrage de Tshuva, d'un ouvrage qui nous entraîne déjà au repentir, on a déjà Rosh Hashanah en perspective, et donc nous devons lire des paroles qui sont parfois des remontrances par rapport à notre comportement, et cela peut constituer une source de désespoir lorsque nous comparons notre comportement réel par rapport à l'idéal auquel nous devrions aspirer. Et donc ici nous dit l'auteur du Marzor Vitri, Rabbi Simcha, l'élève de Rashi, « Shelo itiashu min hatshuva » Il ne faut pas que les Juifs désespèrent de la tshuva, ou min hageula, et également de la délivrance. « Lomar she'avda tikvata mechamat ktsat avera shebeyadam » en disant que à cause de quelques fautes qu'ils ont commises, ils pourraient être exclus de la tshuva, exclus de la geoula. Il y a peut-être également une petite nostalgie du fait que nous avons passé la fête de Pessah et que nous n'avons pas encore vu la délivrance finale du Mashiach. Cela peut paraître un peu malhonnête de commencer par cette Mishnah, sachant qu'on la coupe, on n'en garde que le début, et la suite de la Mishnah dans Sanhedrin nous dit « Ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba » Il y a toute une liste de personnes qui n'ont pas part au monde futur. Malgré tout, le Barthénora explique que le olam haba dont il s'agit ici sera donné même à ceux qui ont reçu une peine de mitad bet din, une peine de mort par un tribunal terrestre, à cause de leur impiété. Ceux-là aussi auront part au monde futur. Le Olam Haba dont on parle ici est le monde qui viendra après la résurrection des morts, où on se trouvera avec un corps et une âme, mais dans une dimension éternelle et sans aucun profit matériel. C'est pourquoi le Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Rav Frida, écrit dans son commentaire à Ava Bata Anugim « Kemo Adam Arishon Kodem Shechata » qu'on se retrouvera dans la situation de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire vraiment qu'on accédera à une dimension de réparation totale. On peut malgré tout se poser la question de savoir comment tous les Juifs peuvent avoir accès à un tel monde futur. Et Rabbi Chaim Faladji, dans son Ene Kol Chai, explique en vérité que tous les Juifs sont Arevim Zelazé. Il y a une solidarité entre tous les Juifs, et ils ont un statut finalement de Shutafin, c'est-à-dire d'associer dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'accomplissement de la Torah, dans son étude. Et à chaque fois qu'un juif finalement fait une mitzvah ou étudie la Torah, il prodigue à son prochain également un mérite, puisqu'il partage avec lui, en tant que membre d'une même association, il partage avec lui le bénéfice de ses mitzvot. D'ailleurs, cela nous permet de faire le lien avec la première Mishnah qui va nous parler du don de la Torah, car Rabbi Chaim Faladji fait également allusion au fait que le Matan Torah, le don de la Torah lui-même, est un don qui s'est fait comme lorsque des frères héritent ensemble d'un héritage. C'est-à-dire que ici, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Ham Israël, et cette Torah finalement est indivisible, elle est entre les mains de tous les frères en même temps, de tous les juifs, chacun y a une part. Lorsqu'on dit que chacun y a une part, cela veut dire tout d'abord que chacun peut y trouver son compte. Ceux qui aiment l'étude de la Halakha, ceux qui aiment l'étude de la Haggadah, ceux qui aiment le Pilpoul, ceux qui aiment la Kabbalah, etc. Chacun trouvera dans la Torah la part qui convient au Shoresh de sa Neshama. Mais d'autre part, ce que dit le Rabbi Chaim Faladji, c'est qu'il y a une phrase bien connue, on dit « En rekanim beIsraël ». Qu'il n'y a pas dans le peuple juif de personnes qui soient vides de mitzvot. On dit à filou rekanim sheba, meleim mitzvot karimon, que même les personnes qui sont considérées comme des vauriens, au sens propre du terme, sont en fait pleins de mitzvot. Et donc il y a deux manières d'expliquer ça. D'une manière qui est de dire que même des personnes qui nous apparaissent comme des vauriens, malgré tout, font des mitzvot qui ne nous est pas permis de voir, de connaître. Mais d'autre part, même si, entre guillemets, eux-mêmes ne faisaient aucune mitzvah, alors ils ont au moins une part en tant qu'associés aux mitzvot de leurs coreligionnaires, aux mitzvot des autres membres du Ham Israël. Nous arrivons donc à la première Mishnah du traité Avot, qui est bien connue, que tout le monde connaît par cœur, Moshe Kibel Torah Misinai, que Moshe a reçu la Torah du Sinai, Umsara Yoshua, l'a transmise à Josué, Yoshua l'Izkenim, Josué aux anciens, Zkenim l'Invi'im, les anciens aux prophètes, Unvi'im et Sarua l'Anshe Knesset Agedola, et les prophètes eux-mêmes ont transmis la Torah aux membres de la Grande Assemblée, et on finit par un premier enseignement, Hem Amru Shlosha Devarim, que les membres de la Grande Assemblée avaient l'habitude de répéter trois choses, Hevu Metunim Badin, soyez circonspects dans vos jugements, ve'amidu talmidim harbe, faites beaucoup d'élèves, va sous seyag la Torah et construisez une barrière autour de la Torah. Arrêtons-nous sur le début de la Mishnah qui a suscité l'interrogation de tous les commentateurs. Quel est le sens de cette expression Moshe Kibel Torah Misinai, que Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Lorsqu'on lit cette phrase, on a l'impression que c'est le Sinaï, la montagne qui a donné la Torah à Moshe, alors qu'évidemment, comme l'explique le Rabbi Ovadia Mibartenora dans son Pshat, Mimi Sheniglab et Sinaï, lorsqu'on dit du Sinaï, c'est-à-dire que Moshe a reçu la Torah de celui qui s'est révélé au Sinaï. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas dire Moshe Kibel Torah Minashamaim ou Moshe Kibel Torah Meakadosh Baruch Hu? Quel est le sens de cette expression Mi Sinaï? La deuxième question qui se pose, c'est le changement de verbe. Pourquoi le premier verbe est « kibel » Moshe a reçu la Torah du Sinaï, et après, pour toutes les autres étapes, on a un verbe qui est « mesarua », « milashon masoret », c'est-à-dire une transmission. Pourquoi ne dit-on pas que Moshe lui-même a donné la Torah à Yoshua, la Torah qu'il a reçue, il l'a donnée à Yoshua, ou à l'inverse, pourquoi ne pas dire qu'on a transmis la Torah à Moshe depuis le Sinaï? Pourquoi dire qu'il a reçu et non pas qu'on lui a donné? Donc il y a deux questions en fait en une. D'une part, dans le terme Kibel, on insiste sur l'action que Moshe a faite, c'est-à-dire qu'il a reçu, tandis que dans les verbes suivants, on insiste sur l'action que fait celui qui donne, Umsarua, ils l'ont transmis, Umesara, Umsarua, ils l'ont transmis. Donc au début, on se place du point de vue du récepteur, tandis que par la suite, on se passe du point de vue de celui qui donne. Et la deuxième question, c'est la différence de termes. Pourquoi dans un cas, un terme de réception et dans l'autre, un terme de transmission? Il peut paraître un peu insolent de vouloir commenter le Pirkei Avot lorsqu'on lit dans les mots mêmes de Rabbi Avraham Azoulay « Biyot shirabu kemo rabu mefarsha maserta azot le'en cheker la ze'ala levavi shelo lefarsha » Rabbi Avraham Azoulay a écrit un commentaire sur la Mishnah et lorsqu'il est arrivé à Avot, il écrit qu'il y a tellement de commentaires qui existent déjà sur ce traité que dans un premier temps, il a pensé qu'il était parfaitement inutile, voire orgueilleux, de vouloir à son tour commenter ce traité. Mais malgré tout, il l'a fait à cause de la chavivut, à cause de l'amour qu'on peut avoir pour ce traité, et également pour suivre la tradition de toutes les générations précédentes qui ont chacune interprété et réinterprété ce traité de Avot. Pour répondre à la première question que nous avions posée, on peut s'aider du commentaire de Rabbi David Pardo, Shoshanim le David, qui dit en fait que ici on a deux éléments qui décrivent la Hanava. C'est-à-dire que d'un côté on a Moshe, Moshe Rabbeinu, qui était le plus humble des hommes, comme en témoigne la Torah elle-même, et de l'autre côté on a le Sinaï, qui est connu d'après le Midrash, l'Amateratzedun Arim Gavnunim, que le Sinaï était la montagne la plus humble également, la plus basse, qui a priori n'était pas destinée à recevoir la Torah. Les monts les plus élevés étaient en concurrence pour pouvoir obtenir le privilège de que la Torah soit donnée sur eux. Et donc ici nous dit le Rabbi David Pardo, il y a un lien entre Moshe et Sinaï. Si on n'a non pas dit que Moshe a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, c'est pour nous enseigner que le point le plus important est celui de la Anava, et celui de la modestie, de l'humilité. Il analyse pour ce faire la forme grammaticale, la forme syntaxique, c'est-à-dire qu'il y a marqué « Moshe kibel Torah mi Sinaï ». Nous, on aurait pu comprendre que ça veut dire « Moshe a reçu la Torah du Sinaï », ce qui ne veut rien dire, comme on l'a déjà remarqué. Et donc, il nous dit ici que le même doit être un même qui décrit une explication. Comme on dit dans Echa, « Mechatat nevi ea », c'est-à-dire « à cause de la faute de ces prophètes ». Ici, ça veut dire que Moshe a reçu la Torah à cause du Sinaï, c'est-à-dire à cause du fait qu'il était humble comme le Sinaï. Et donc, dès l'abord de Maseret Avot, on commence par ce premier point. Si on veut être capable de s'imprégner des paroles de ce traité, il va falloir commencer par rentrer dans une dimension d'humilité. Une autre explication du terme de Kibel, de recevoir, est rapportée par Rabbi Yaakov Hagiz dans son commentaire Etz HaChaim. Il nous rapporte une Gemara qui se trouve dans le quatrième Pérec de Nedarim, et qui nous dit que lorsque Moshe étudiait la Torah avec Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il apprenait une chose, il l'oubliait. Ad shenitna lo bematana, jusqu'à ce que la Torah lui soit donnée en cadeau. Et donc c'est pour ça, nous dit-il, que la Mishnah enseigne Moshe kibel Torah mi Sinaï, c'est-à-dire que Moshe a reçu la Torah comme on reçoit un cadeau, et non pas comme une tradition qu'il faut apprendre, qu'il faut mémoriser, puisque pour une raison qui ne nous est pas révélée ici, Moshe Rabbeinu n'a pas été capable de mémoriser les enseignements que lui donnait Akadosh Baruch Hu, et donc il a dû recevoir cette Torah en cadeau. Un autre point sur lequel insiste Rabbi Yaakov Hagiz, c'est sur le Inyan de Sinaï. Pourquoi recevoir du Sinaï? On sait qu'il y a une marloquette dans la Gemara pour savoir si le plus important c'est d'être Sinaï ou Oker Harim. Entre guillemets, en traduction littérale, est-ce que c'est mieux d'être comme le mont Sinaï ou être comme un déracineur de montagne? Et donc nos maîtres expliquent la différence entre les deux, que le Oker Harim, c'est ce qu'on appelle celui qui est Harif, c'est-à-dire celui qui sait faire des raisonnements extrêmement complexes, extrêmement subtils, tandis que Sinaï, c'est une personne qui, comme la montagne du Sinaï, est massive, d'une part, et d'autre part, rassemble toute la Torah, c'est la dimension de Bekiout. La dimension de connaissance, de quantité de connaissance, d'étendue de la connaissance, et non pas simplement de virtuosité intellectuelle. Et donc ici, nous dit Rabbi Yaakov Hagiz, le terme de Sinaï vient également nous enseigner le fait que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah. D'ailleurs, dans son Maritain, le Rav Frida nous dit que c'est en rapport avec ce qu'enseigne le Talmud Yerushalmi, dans la Maseret Pea, au chapitre 2 à la Chadalet, qui nous dit que Kol Israël Kol Echad Kibel Chelko Bemahamad Ar Sinai, que chaque juif a déjà reçu sa part de Torah lors du Sinai, ou Moshe Rabbeinu Yada Afilu Mashe Talmid Vatik Atid Lechadesh, mais que Moshe Rabbeinu, lui, a reçu la totalité de la Torah, y compris les Chidushim, les enseignements nouveaux, que dans le futur, des Talmidei Chachamim allaient inventer, aller créer. Ensuite, nous avons donc le changement de verbe, puisqu'on dira que Moshe a transmis la Torah à Yoshua, Et le Etz HaChaim, le Rabbi Yaakov Chagiz, nous dit que on ne dit pas que Yoshua a reçu la Torah de Moshe, parce qu'en fait, Yoshua n'est pas le seul à avoir reçu la Torah. Tous les autres ont également reçu l'enseignement de Moshe, aussi bien Aaron, ses enfants, etc., comme cela est décrit donc, dans la Gemara, et comme c'est rapporté dans Rashi sur la Torah, la manière dont les choses étaient enseignées, d'étape en étape, de groupe en groupe, jusqu'à ce que cela touche l'ensemble du Ham Israël. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas dire que Moshe a donné l'ensemble de la Torah à l'ensemble du Ham Israël, puisque finalement, c'est ce qui va se passer. Rabbi Yaakov Chagiz explique également que c'est en raison du fait que Yehoshua est le seul à avoir reçu les Sitrei Chochma, les secrets de la Torah, tandis que, évidemment, le Ham, le peuple, le cercle plus large, n'a pas reçu ces secrets-là. C'est peut-être cela à quoi fait allusion le Rav Frida dans son Maritain, lorsqu'il dit « Davka Yehoshua », que la transmission a été faite spécifiquement à Yehoshua. Rabbi Chaim Faladji voit une allusion, une kabbalistique, en disant que Yehoshua est un descendant de Yosef HaTzadik, et que donc ces deux personnages représentent la Mida de Yesod et le Tikkun HaBrit, donc il y a une dimension particulière ici. Un autre point que dit le Rav Frida, c'est que Mi Sinai vaut en Gematria Mem Kuf Lamed. Et que ce terme Mem Kuf Lamed, ce sont les dernières lettres des trois mots Avraham, Yitzhak et Israël, parce que c'est par leur mérite finalement que nous avons reçu la Torah. On ne peut pas simplement considérer que l'histoire juive commence avec Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah au Sinaï, même si c'est l'élément vers lequel tout était tendu, mais il faut rappeler malgré tout que le travail préparatoire a été fait par Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham, Yitzhak et Israël, et que donc leur nom apparaît de manière cachée à l'intérieur de la Mishnah pour nous rappeler qu'ils étaient bien présents et que ce eux qui ont constitué Merkava, la Shrina, un véritable chariot, un véritable socle pour la présence divine dans le monde qui a permis d'amener le Ham Israël à recevoir la Torah au Sinaï. Pour conclure cette étude, un point qui est rapporté dans le Petach Enaim, un autre ouvrage du Rav Frida, qui permet de faire écho à ce que dit le Rambam dans son introduction à Masechet Avot. Dans son introduction à Masechet Avot, le Rambam souligne le fait que les nations ont produit un certain nombre de livres d'éthique, de morale, etc. Mais comme il le dit, Badou Milibam, ce sont des livres qu'ils ont inventés de leur propre chef. Et ici, le Rav Frida souligne que la raison pour laquelle c'est marqué Moshe Kibel Torah, les horot de Hamusarim halalu hen hen gufe Torah nemru besinai. Pour nous dire que ces paroles de morale qu'on va trouver dans les Pirkei Avot, ce sont gufe Torah, des parties essentielles de la Torah, qui ont été données au Sinaï. Et donc il y a une différence fondamentale entre la morale des Goïm et la morale des Juifs. La morale des Goïm est une morale qui a été entre guillemets inventée, et de l'autre côté, il y a la morale juive qui est une morale qui a été reçue du Sinaï. Pour faire simplement un écho dans l'actualité, puisque hier c'était Yom HaShoah, dans le mouvement de Torah Im Derech Eretz, qui a été initié par Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y avait une admiration, non seulement pour le fait qu'il fallait s'intégrer dans la cité, mais également une admiration pour la culture allemande, au point où on connaît les conférences qui ont été organisées, la fête qui a été organisée par Shimshon Raphaël Hirsch lors du jubilé de Schiller. Et donc après la guerre, la question s'est posée, et notamment a été posée par Rav Shimon Schwab, qui était l'héritier spirituel de Rav Hirsch à New York, qui s'est posé la question de savoir que faire de cet héritage. Maintenant que nous avons vu que les nazis sont capables de commettre ce qu'ils ont commis, alors qu'ils ont été éduqués à la lecture de Hegel, à la lecture de Goethe, à la lecture de Schiller, avec la musique classique allemande, etc., que faire de tout cela? Et donc finalement, il y a eu, entre guillemets, une sorte de rétrécissement du domaine de Torah Im Derech Eretz, pour dire que « Chochma bagoim ta'amin », comme nous le dit la Gemara, il faut croire qu'il y a de la chochma chez les non-juifs, mais Torah bagoim al ta'amin, croire qu'il y a de la Torah chez les non-juifs, ça, il n'y a pas à le croire. Donc ici, le Rav Frida nous rappelle ce point-là en nous disant, pour ce qui est de la morale, Comme l'a écrit le Rambam, les œuvres qui ont été produites par les Goïm sont des œuvres asher badoum et libam, qu'ils ont inventées, qui n'ont rien de scientifique, entre guillemets, qui n'ont rien d'immuable. Au contraire, la morale qui est immuable, c'est celle de la Torah qui a été reçue par Moshe au Sinaï.